Je veux aujourd'hui répondre à la question « Michel Platini peut-il être innocent ?» De quoi parle-t-on ? Nous parlons naturellement du versement opéré par la FIFA en faveur de Michel Platini de 2 millions de francs suisses, prétendument couvrant une rémunération salariale pour la période 1998-2002, au cours de laquelle Michel Platini a dispensé des conseils à la FIFA. Vincent Fragnière, le rédacteur du Nouvelliste, qui est le quotidien le plus lu du canton du Valais, le canton d'origine de Seb Blatter, avait pris la défense de Michel Platini en arguant que le président de la FIFA voulait sa peau et avait été à l'origine de la mort footballistique du Français. Cette thèse était celle qui avait surgi lors de l'éclatement de l'affaire. Elle est fondée sur l'animosité prétendue qui aurait existé à cette époque entre l'ancienne star de la Juventus de Turin et le Viégeois. Je me suis demandé dès le 9 janvier 2016 si cette thèse était vraie. J'en doutais. La véracité de cette hypothèse reposait d'abord sur la capacité d'autoflagellation du dénonciateur. En agissant contre Michel Platini à cette époque, Seb Blatter savait aller lui-même devant des ennuis procéduraux en cascade. Serait-ce le désir d'un homme qui a côtoyé le sommet de l'Olympe que d'achever sa destinée terrestre dans une geôle ? J'écrivais ceci le 9 janvier 2016, même helvétique, pour punir le fils prodigue qui lui avait demandé un peu brusquement de quitter une fonction qu'il avait trop prisée. Je n'y crois pas une seule seconde, je n'y croyais pas en 2016, je n'y crois pas aujourd'hui, même si cette thèse est encore celle qui est favorisée par une partie de la presse spécialisée, juridique ou sportive, ou politique. Je n'y crois pas. La thèse des amis, et là j'ai mis dans mon article de 2016 intitulé « Le pacte du diable », que la thèse des « amis » entre guillemets de Platoche, il bute sur un autre fait dont l'écho avait été diffusé par la presse internationale. L'opération que j'ai appelée « incestueuse » intervenue entre Blatter et Platini a été découverte, je le disais à l'époque, grâce à l'utilisation d'un logiciel informatique qui avait la faculté de dénicher les opérations financières insolites à l'intérieur de la comptabilité de l'organisation. C'était une thèse qui circulait et que j'avais en tous les cas véhiculée le 9 janvier 2016. Et puis, on sait aussi que Seb Blatter a toujours dit, alors que sa parole avait été sujette à caution et puis critiquée dans maints aspects, que cet homme avait toujours dit, après l'éclatement de l'affaire, que Michel Platini était un honnête homme. Alors, pourquoi il aurait eu ce désir de louer son ennemi, alors cela aurait été pour se défendre lui-même, mais alors, dans cette même hypothèse, pourquoi l'avoir dénoncé ? Cela n'a aucun sens et il n'y a personne de sérieux sur cette terre qui peut soutenir que Blatter n'est pas intelligent. Donc, cette solution-là, cette hypothèse-là, moi, je l'écarte de manière très claire. Et en 2016, et je dis bien en 2016, et je l'ai dit sur les ondes de l'after-foot de RMC, j'avais eu des paroles très sévères à l'encontre de Michel Platini, également de Sepp Blatter, et j'avais écrit sur le site de l'index que s'il fallait trouver quelque logique dans le versement accepté simultanément par Blatter, le donateur, en réalité la FIFA rémunératrice, et Platini, le bénéficiaire, je la décèlerai, et c'est un argument qui avait été repris entre les lignes dans l'acte d'accusation dont on parlera tout à l'heure, je la décèlerai dans un accord passé entre les deux hommes, à teneur duquel le Français renonçait à affronter le Suisse pour la présidence alors de la FIFA, moyennant cette, ce que j'appelais, agréable contribution. Et pris main dans la poche, les deux compères ont alors imaginé l'existence d'un contrat de travail vieux de 10 ans et pour lequel Platini aurait oublié de réclamer son dû et aurait omis d'exiger un contrat conclu en la forme écrite. Alors, sur mon front, disais-je, n'est pas écrit le mot crétin. Aujourd'hui, ma position a évolué de manière, je dirais, drastique, et je voudrais l'expliquer pour quelles raisons. 2016, je n'avais pas encore, avec l'aide d'un ami, établi le tableau chronologique qui est sur le site de l'index, dans la partie droite. Si l'on clique sur la photo de Gianni Infantino, qui a précisément l'index levé, vous entrez dans un monde complètement fou, qui est mis dans un diagramme Excel ou également en fichier PDF pour ceux qui veulent l'obtenir. Et on voit, on va dire, l'évolution d'un système FIFA de type mafieux. Et l'ensemble de l'évolution donne quelque chose d'assez incroyable et qui d'ailleurs est aujourd'hui concrétisé par le fait que il y a très peu de jours encore, on a appris que les États-Unis d'Amérique transféraient à la FIFA plus de 200 millions de dollars, je n'ai pas le chiffre exact ici, de fonds qui avaient été transférés de manière illicite de la FIFA à certaines confédérations de football, un argent qui n'a pas été utilisé pour le football, mais pour satisfaire des besoins privé. Et dans ce cadre-là, on a indiqué que dans les affaires FIFA, le FIFA Gate, dans les affaires Platini, Infantino, Lauber, Arnold, on a une chronologie absolument stupéfiante. Cette analyse a peut-être d'ailleurs affiné avec toutes les procédures qui ont eu lieu à New York, spécialement auprès du tribunal fédéral de Brooklyn, qui avait été en charge des affaires FIFA. Et cette chronologie en elle-même, elle dit, on va dire, l'étendue de la corruption qui a pollué le football mondial. Au fil des ans, la FIFA est effectivement devenue une organisation sportive mondiale à caractère mafieux qui a distribué des prébendes, des pots de vin, des rémunérations et des facilités diverses à ses amis. Andrew Jennings, qui est un journaliste écossais, qui est l'un des meilleurs connaisseurs des dessous des affaires de la FIFA, avait résumé ses propres investigations à l'époque, la FIFA, sous la direction de João Havelange et puis après sous celle de Sepp Blatter, correspond en tout point à la définition d'un syndicat du crime organisé dans lequel l'omerta y règne. Ses propos sont ceux de ce journaliste écossais qui a passé des mois et des années à enquêter sur la FIFA. Et puis, dans l'introduction à cette chronologie, nous avions indiqué que Gianni Infantino, après son élection à la présidence de la FIFA, avait voulu faire passer la FIFA pour une victime, alors même que les nombreux corrompus appartenaient à sa structure fêtière. Cette position-là, je n'avais pas pu l'accepter, nonobstant le changement des organes. Mais naturellement, cette position, elle a été acceptée par la justice suisse, puisque la FIFA est partie civile, par exemple, dans le cas de la procédure menée par le procureur de la Confédération contre Sepp Blatter et Michel Platini. Et puis, on a appris, alors naturellement que tous ceux qui étaient totalement impliqués dans les dossiers, qui ont pu consulter les dossiers, je vais dire pièce à pièce, avaient connaissance de cette information depuis longtemps. Je pense ici notamment à tous les avocats qui étaient partis à la procédure. Ils avaient connaissance de quoi ? Du nombre volumineux astronomique de pièces qui ont été séquestrées, certaines ont été mises sous scellé par le ministère public. Et lorsqu'on voit la somme absolument incroyable des pièces qui étaient théoriquement à disposition du ministère public et que nous n'avons strictement aucune information sur l'hypothèse que je faisais selon laquelle ces pièces ont été en quelque sorte analysées par des instruments informatiques, ce qui aurait pu expliquer la vitesse avec laquelle on est tombé sur les documents prétendument, disons, inquiétants pour Michel Platini, eh bien, on s'aperçoit que ces moyens informatiques n'ont jamais été évoqués dans le cadre de la procédure au tribunal pénal de Balanzone. Donc, il y a une question qui est absolument décisive aujourd'hui et qui d'ailleurs a poussé et incité les avocats français de Michel Platini, maître Elaïté, maître Temim et maître Zbili, a déposé une plainte et dénonciation pénale auprès du parquet français pour trafic d'influence. Donc on verra ultérieurement ce qu'il adviendra de cette plainte qui est initialement dirigée contre Gianni Infantino et contre Monsieur Villiger, qui était le chef du service juridique de la FIFA. Pourquoi cette démarche? C'est parce que Michel Platini a eu connaissance à un moment donné par la presse. Il n'a pas eu connaissance par des informations et des renseignements qui lui auraient été transmis par ses avocats qui auraient consulté les dossiers. Non, il a pris connaissance par la presse de rencontres informelles, trois ou quatre, on ne sait plus très bien aujourd'hui, informelles et secrètes, qui ont été initiées par le premier procureur du Haut-Valais, Rinaldo Arnold, entre Gianni Infantino et le procureur général du ministère public de la Confédération, Michael Lauber. Ce sont d'ailleurs ces rencontres qui ont provoqué, à travers un rapport de l'autorité de surveillance du ministère public de la Confédération, la chute du procureur général Michael Lauber, et qui ont immédiatement jeter la suspicion sur le patron de la FIFA, le nouveau chef de la FIFA, Gianni Infantino. Et puis, c'était, je crois, en août 2020, qui a été édité sur le site de l'index la chronologie, donc qui s'arrête au mois de septembre 2020, à la fin du mois d'août 2020. Nous avons indiqué donc l'existence de ces rencontres avec la nomination d'un procureur général qui devait analyser une procédure pénale ouverte contre les personnes ayant participé à ces rencontres secrètes. À l'époque, on avait demandé, ce qui avait été obtenu, la levée de l'immunité de Michael Lauber, qui a finalement été démissionné, enfin, il a été contraint à abandonner sa fonction. Et puis, Stéphane Keller, le procureur ad hoc, ayant commis plusieurs erreurs, je dirais, légères, enfin, légères et inutiles et complètement, disons, ce que ne doit pas faire un procureur général, ad hoc, en voulant trop s'exprimer médiatiquement et publiquement, eh bien, il a été contraint également à abandonner sa charge. L'enquête étant toujours en cours. Alors, la question qui se pose, dès l'instant où il n'y a pas eu d'outils informatiques, de logiciels informatiques, de hackers éthiques qui auraient contribué à aider le ministère public à obtenir des pièces, on ne peut que se demander comment la documentation qui a finalement abouti à l'accusation de Michel Platini et de Sepp Blatter pour gestion déloyale, pour escroquerie et pour faux dans les titres, a pu être révélé si rapidement, alors que les documents scellés ou séquestrés étaient si nombreux. Et c'est là que, en raison de la chronologie, on ne peut que s'étonner du fait qu'une rencontre secrète ait eu lieu le 8 juillet 2015. Et le 8 juillet, c'est une date vraiment décisive dans la vie de Michel Platini, puisque le 8 juillet 1982, c'est le fameux match France-Brésil, au cours duquel la France a été lésée à la suite d'une erreur d'arbitrage grave liée à une agression de Tony Schumacher sur Batiston. Et puis le 8 juillet, ce sera également le jugement à Balinzone. Et le 8 juillet, ça a été également cette rencontre qui a débouché sur une mise en accusation, une inculpation, une mise en examen de Sepp Blatter. Puis, plus tard, après une première ordonnance de classement, de la mise en accusation de Michel Platini. À titre personnel, je ne crois pas une seule seconde que le paiement intervenu entre la FIFA, représenté par Sepp Blatter, représenté également par le directeur financier Marcus Kattner, à Michel Platini d'un montant de 2 millions de francs suisses, 1 800 000 euros, ait été connu que de très peu de personnes, à savoir les intéressés. Je veux dire, ce paiement, il a été contrôlé. Ce paiement, il a fait l'objet de révisions. Et puis, je dirais que dans les locaux de la FIFA et de l'UEFA, je n'ose pas imaginer une seule seconde que ce paiement n'ait pas été évoqué. Et Si j'avais en face de moi Gianni Infantino, qui naturellement réfute totalement ce positionnement, je lui demanderais simplement s'il connaît le fiscaliste de l'époque de Michel Platini, s'il a des relations avec lui, si c'est un proche ou pas un proche, c'est quelqu'un qu'il connaît, c'est quelqu'un avec qui il a travaillé ou pas, et c'est quelqu'un qu'il côtoie encore ou pas. Et selon la réponse donnée par Gianni Infantino, on verrait que la thèse qui est la mienne, à savoir que à l'intérieur, non seulement de la FIFA, mais également de l'UEFA, ce versement était connu et archi connu, et que Michel Platini avait également déclaré ce montant au fisc suisse, qu'il a payé des impôts dessus, à peu près, je crois, 900 000 francs suisses. Donc cet élément-là était connu. Alors j'aimerais bien savoir pour quelles raisons ces gens qui connaissaient ce versement, qui connaissaient ce virement, dont on peut peut-être même penser qu'ils ne connaissaient pas tous les tenants et aboutissements du versement, mais comment aucun d'entre eux, pas un seul, n'a songé à un moment donné à défendre les intérêts de la FIFA et du football en général et de dire ce versement, il est si insolite que je vais en informer soit une autorité judiciaire, soit les autorités à l'intérieur de la FIFA. Pas un n'a entrepris cette démarche. À ce moment-là, on doit se poser la question, on peut y répondre en disant et en s'appuyant sur le tableau chronologique et en disant « tout le monde est corrompu jusqu'au simple cadre de la FIFA, tout le monde vient prendre ce qu'il peut obtenir comme rémunération et veut se taire ». Et donc, l'ensemble de l'organisation est si corrompu qu'aucun d'entre ces hommes n'a eu le courage, pas un seul, de faire une annonce soit à la commission d'éthique, soit à une autorité judiciaire. Eh bien, j'ai le droit, tout un chacun a le droit, de soutenir à l'inverse que parce que pas un seul de ces hommes n'a choisi cette voie, c'est simplement parce qu'il considérait que l'opération n'était pas si insolite que ça, que l'opération correspondait à des prestations de mandataire ou de rémunération salariale effectuées réellement par Michel Platini et devant aboutir à ce montant de 2 millions de francs. Et tout un chacun reconnaîtra aujourd'hui que ce montant... Qui peut impressionner un petit ouvrier, un petit boulanger, d'ailleurs même un avocat ou un cadre bancaire, eh bien, dans le domaine du football, c'est pas un montant astronomique. C'est un montant qui est tout à fait conforme, d'ailleurs, à la carrière de Michel Platini, à l'aura que celui-ci a dans le monde du football. Et on peut même penser, et je crois qu'on doit le faire, que Sepp Blatter, intelligent, non seulement pour défendre ses intérêts personnels, et c'est la raison pour laquelle il a fait appel à Michel Platini pour devenir, en 1998, président de la FIFA, parce qu'il sait que Michel Platini avait cette aura qui pouvait lui permettre d'obtenir des voix que peut-être il n'aurait pas obtenues, notamment en Europe. Et donc, pour défendre ses intérêts personnels et pour défendre le football mondial, personne ne dira que Michel Platini n'a pas des idées assez claires sur le football. Personne ne dira qu'il n'est pas un passionné du ballon rond. Et personne ne dira que la position de Platini sur toutes les règles de jeu est dénuée de signification. Et donc, c'est tout à fait normalement qu'un président de la FIFA, quel qu'il soit, qu'il s'appelle Sepp Blatter ou n'importe qui, dans sa fonction, peut faire appel à Michel Platini. Et si vous voulez, l'histoire que nous dit aujourd'hui Michel Platini, sa mémoire par rapport aux faits du passé, c'est quoi? C'est simplement d'expliquer calmement que lorsque Blatter lui a demandé, eh bien, il a dit « voilà, moi je vaux 1 million ». Et c'est dans ce contexte-là que, on va dire, main à la main, comme cela se fait souvent dans les contrats de travail, dans les contrats de mandat, et pour toutes sortes d'activités, même des activités entrepreneuriales, les deux hommes se sont entendus pour fixer une rémunération. Et c'est en quelque sorte les circonstances de la révélation, le moment de la révélation et que l'on voit apparaître dans ce tableau chronologique qui est curieusement lié à des réunions secrètes intervenu entre les organes de la FIFA entre les organes de la FIFA et les organes du ministère public qu'a surgi. Et donc ça laisse vraiment un arrière-goût mais très très amer sur la chose. Et dans ce monde de requins, on peut tout à fait imaginer. Et le mot « imaginer », il doit prendre ici une signification profonde parce que personne, ni au ministère public, ni chez les proches de Platini, ni parmi les avocats, enfin je l'espère, n'ont eu connaissance du contenu de ce qui s'est discuté lors de ces réunions secrètes entre Infantino ou ses représentants, ou son ami, ou son conseiller, comme il l'appelle, et les organes de la FIFA, Michael Laubert, André Marty, le chef de l'information, et semble-t-il peut-être un autre procureur, puisque à l'une de ces rencontres, 5 personnes ont commandé des boissons, et semble-t-il que 4 étaient présentes. Ensuite, on nous explique que le but de ces rencontres, c'était d'obtenir des informations sur l'organisation du ministère public dans le cadre de ce dossier. Je veux dire, une telle thèse, elle est insoutenable, elle est complètement invraisemblable, parce qu'on ne voit pas pourquoi Gianni Infantino mandate pratiquement un ami, un procureur du Haut-Valais, qui n'a pas du tout pour fonction de s'occuper du cas de la FIFA. D'ailleurs, il pourrait pas le faire, puisqu'il est tellement proche de Gianni Infantino qu'il devrait se récuser immédiatement. Comment cet homme-là est accepté dans l'antre, on va dire, secret d'un établissement public par le ministère public, c'est quelque chose de totalement inconcevable. Les avocats français font référence à des actes de déloyauté qui n'existent pas sous cette forme dans le droit suisse, mais en tous les cas, on doit se dire que l'enquête, elle a été sidéralement polluée par des actes qui ont dû être, et qu'en tous les cas, on a le droit de mentionner comme ayant été dans l'imaginaire réel lors de ces rencontres. Cette position, elle est d'autant plus soutenable aujourd'hui que même l'ancien procureur de la Confédération qui a travaillé au sein du tribunal pénal international, Madame Carla Del Ponte, a indiqué devant tous les citoyens et spectateurs du téléjournal sous Darius Rochebain, elle a dit c'est la position de ne pas se souvenir de ce qui s'est passé lors de cette rencontre est tellement invraisemblable que moi, Carla Del Ponte, je considère que ces gens-là se sont mis d'accord pour faire un faux témoignage. Donc c'est quelque chose vraiment de très grave. Naturellement, on reprochera à Carla Del Ponte ce discours, comme on pourrait reprocher ma position qui dit « Vous imaginez quelque chose, vous spéculez ». Sur ça. Et c'est à ce point du raisonnement qu'il faut prendre au sérieux la parole de l'avocat de Sepp Blatter, maître Lorenz Erni, qui est également d'ailleurs l'avocat du procureur général, ce qui me paraît assez fort à bas. Mais enfin, comme avocat de Sepp Blatter, que dit maître Erni ? Il dit qu'on entre dans le champ de la spéculation, c'est-à-dire qu'on imagine une construction qui va à l'encontre des thèses avancées par Platini et Blatter, tendant à la réalité d'un accord oral portant sur une rémunération de 1 million de francs, et qu'on construit l'ensemble de l'argumentation sur ce que lui, il appelle des spéculations. Et la spéculation, elle est également imaginaire parce que fondée dans ces éléments, disons, finaux, sur des hypothèses. Alors, naturellement que le ministère public ne va pas être d'accord avec cette thèse parce qu'il va soutenir, ce n'est pas des hypothèses, puisqu'il y a un contrat écrit fixant la rémunération à 300 000 francs et non pas à 1 million, et que donc on doit prendre appui sur ce contrat, et que toute réplique consistant à évoquer un contrat oral supplémentaire est fausse. Là, c'est une construction qui est fondée sur la récupération d'une pièce dans des conditions vraiment très insolites, et ensuite on fonde la thèse uniquement sur cette pièce, sans les déclarations des gens qui ont participé. Mais une fois encore, je dis que dès l'instant où il y a une rémunération vraiment très importante de 2 millions qui a été distribuée à Platini, et qu'on se rend compte qu'il y a une pièce qui a été contrôlée, vérifiée à l'appui des comptes pour la période 1998-2002 par des réviseurs, par des contrôleurs et par des services internes à la FIFA, ça devient incroyable qu'aucune de ces personnes n'aille dénoncer l'opération du versement des 2 millions comme étant si insolite qu'elle confinait à l'acte illicite. Ça voudrait dire qu'il n'y a pas un seul courageux, il n'y aurait pas eu un seul courageux pour entreprendre cette démarche. La FIFA aurait été tellement polluée, tellement gangrénée, tellement mafieuse dans toutes ses composantes jusqu'au dernier petit soldat, en l'absence de tout courageux et même de tout traître, il n'y aurait même pas eu de traître à cette époque. Alors si vous voulez, ça c'est une thèse que je ne peux pas admettre. Je veux dire, il n'y avait peut-être pas à cette époque-là autant de lanceurs d'alerte qu'après, mais il en existait aussi dans tous les champs de la société. La FIFA est une immense organisation. Je ne pense pas une seconde que si on avait imaginé une opération totalement scabreuse, personne n'aurait invoqué ce transfert comme devant faire l'objet d'une dénonciation. Alors, naturellement que Michel Platini et Seb Blatter ont été par la suite confrontés à toutes les malversations qui ont été découvertes par le FBI et par la justice américaine et qui ont conduit à des restitutions très très importantes. Et on s'est dit, eh bien, ces 2 millions, c'est le 1% de l'ensemble de tout ce qu'on a obtenu. Et il n'y a aucune raison de traiter Michel Platini de manière différente qu'on aurait traité les autres individus qui ont fait de la prison, qui ont été, etc. Mais la période de découverte de ces événements écrits, notamment et des versements opérés en faveur de Platini, sont tels que même pas le plus proche défenseur de Gianni Infantino peut évacuer l'idée de la construction, parce que naturellement eux-mêmes disent que c'est de la spéculation, que le contenu des entretiens entre ces gens, mais n'empêche que le bénéficiaire final de toutes ces opérations, c'est incontestablement Gianni Infantino et personne d'autre, et que donc le rôle joué de manière absolument extraordinaire par Rinaldo Arnold, le premier procureur du Haut-Valais, a peut-être permis que la fonction de président de la FIFA demeure dans le Haut-Valais. Donc, comment ensuite conclure à l'innocence de Michel Platini? Alors là, il faut quand même être très clair. L'innocence, d'abord, elle ne se prouve jamais. C'est le ministère public qui a la charge de la démonstration de la culpabilité et de la commission d'une infraction. C'est le ministère public qui doit expliquer dans tous ses aspects pour quelles raisons Michel Platini doit être considéré comme coupable et condamné. Alors, naturellement, le ministère public a dit, et d'ailleurs ça ne figure pas dans l'acte d'accusation, qu'il n'était pas en mesure d'expliquer le mobile, mais que le mobile n'était jamais un élément constitutif de l'infraction, et que donc on pouvait condamner sans connaître le mobile. D'abord, cette position, elle est en tous les cas faux s'agissant de la fixation de la peine, puisque le mobile est un élément clé de la fixation de la peine. Je peux abonder dans le sens de dire que le mobile n'est pas un élément de l'infraction et que lorsqu'on a un transfert d'argent illicite, ce transfert il peut demeurer illicite, il peut y avoir une condamnation, nonobstant la possibilité de démonstration du mobile. Mais n'empêche que pour arriver à la thèse de la faute, de la démonstration de la faute, du caractère intentionnel de l'opération, eh bien, il faut se mettre dans la peau de Michel Platini. On n'a pas à être dans la peau de Sepp Blatter, on doit être dans la peau, dans l'esprit, dans la tête de Michel Platini. Et on doit se dire, est-ce que Michel Platini pouvait penser que sa rémunération lui était due, nonobstant le contrat de 300 000, dont il avait oublié, semble-t-il, à un moment donné, l'existence, compte tenu de la position qui était celle de Sepp Blatter? Eh bien, Sepp Blatter répond à Michel Platini, oui. Et d'ailleurs, Sepp Blatter, il demande à Markus Kattner pratiquement de rédiger pour le conseiller de Platini le contenu de la facture. Donc, c'est Platini, en suivant cela, en demandant à son conseiller, qui est un ancien cadre bancaire, qui a priori n'est donc pas si stupide que ça, ce cadre bancaire, il se dit de quoi s'agit-il ? Il appelle Markus Kattner et Kattner lui dicte en gros, voilà ce que il faut que tu mettes dans la facture pour que ça joue d'un point de vue comptable. Mais Michel Platini, à ce moment-là, il est tout à fait serein et il se dit, je vais recevoir mes 2 millions que j'ai demandés. C'est peut-être un peu moins que la rémunération que je dois obtenir, mais c'est une liquidation. J'ai attendu trop longtemps et c'est le problème de Blatter de dire est-ce que je vais ou non invoquer la prescription. Parce que je dois quand même dire une chose qui est très importante. Michel Platini ou n'importe quel créancier a le droit d'exiger le paiement d'une créance prescrite. C'est au débiteur d'invoquer l'exception de prescription. Il faut quand même pas renverser la preuve. Donc, Michel Platini, il a le droit de faire valoir une créance prescrite, parce qu'en droit suisse, elle est prescrite. On a voulu passer là-dessus, mais c'est quand même un élément qui est clé, puisque le paiement de la créance intervient à peu près 8 ans après l'exigibilité. Mais toujours est-il que Michel Platini demande à être payé. Et Blatter a répondu à cela en disant « Moi, j'ai été éduqué de telle manière qu'on doit toujours payer ses dettes. C'est mon papa qui me l'a appris, donc je paye mes dettes et sans penser à invoquer la prescription. » À chacun de savoir maintenant si ça aurait été un abus de droit que d'invoquer la prescription ou non. Mais en tous les cas, on se base là sur une opération qui peut être légale et subjective, sans qu'elle entre dans le cadre pénal. Alors, je sais ici que je suis en opposition avec une série de la presse française, avec Maître Alain Cotagnou, qui n'a pas modifié la position que j'avais exprimée depuis le mois de janvier 2016, à savoir celle d'une sorte, entre guillemets, présomption de culpabilité de Michel Platini, qui aurait quand même passé un accord avec Sepp Blatter, et qui est naturellement la thèse des amis, des proches et des conseillers de Gianni Infantino, et naturellement la thèse qui a été retenue par le ministère public de la Confédération suisse. Mais n'empêche que la construction de l'innocence, et je vous le rappelle, normalement, on ne devrait pas être amené à faire la preuve de l'innocence, qui est toujours impossible, c'est l'accusation de démontrer la culpabilité. Là, il y a quand même une chose qui est décisive, c'est que s'il y a un doute raisonnable, c'est-à-dire on peut penser que la construction factuelle faite par le ministère public est tout à fait correcte, elle est possible, on va dire, elle est possible, mais est-ce qu'une autre construction fait entrer dans notre esprit de juge un doute raisonnable? Eh bien, je dis que si on se met à la place de Michel Platini, il y a en tous les cas, au niveau de l'élément subjectif, un doute sidéral. Donc c'est un doute raisonnable que la construction qui a été faite, parce que l'histoire d'un procès, c'est toujours celle d'une construction des faits, la construction des faits opérée par l'avocat de Michel Platini, Dominique Nélène, est tout à fait plausible, elle est tout à fait crédible, elle est tout à fait raisonnable. Et on se trouve dans cette position-là sur deux thèses raisonnables. La thèse du ministère public, il est raisonnable de penser qu'il a pu y avoir un accord sans qu'on puisse considérer le mobile entre Platini et Blatter, mais il est tout aussi raisonnable de penser que Platini pensait être rémunéré tardivement pour des prestations effectuées. Et puis, c'est là que a été mise en avant la problématique de difficulté de liquidité de la part de la FIFA. Alors aujourd'hui, avec ce qui s'est passé dans les dernières Coupes du Monde, où la FIFA a engrangé des sommes astronomiques, on peut se dire « mais non, c'est pas possible », etc. Et d'ailleurs, il y avait encore des liquidités. Eh bien, tous ceux qui étaient à l'intérieur de la FIFA, et tous ceux qui connaissent les états comptables de la FIFA, l'évolution, et tous ceux qui connaissent un tout petit peu le drame qui était lié à l'affaire ISL, antérieure à l'arrivée de Sepp Blatter en qualité de président de la FIFA, eh bien savent qu'il y avait vraiment un problème de liquidité. Et il est raisonnable, tout à fait raisonnable de penser que Sepp Blatter ait suspendu une partie du paiement à Michel Platini. Et dans ces conditions-là, c'était tout à fait raisonnable de faire un contrat pro forma pour dire « voilà ce qu'on va admettre et on verra plus tard ». Je pense que où Blatter fait une erreur, c'est qu'il aurait quand même dû distinguer les états comptables de l'accord avec Platini. Parce que dès l'instant où il y a un accord à 1 million de francs, tout comptable vous dira que cet accord doit être formalisé dans le cadre des états comptables de la FIFA. Et donc, il y aurait dû y avoir une écriture de charges et de dépenses dans le compte de pertes et profits. Tout comptable vous le dira, non pas pour un montant de 300 000, mais pour un montant d'un million. Ce qui fait que les titres comptables peuvent être qualifiés de faux au sens de l'article 251, selon mon appréciation. Et Blatter, qui est en position de directeur opérationnel, eh bien, il peut se retrouver avec une condamnation de faux dans les titres, sans que celle-ci ne puisse être imputable à Michel Platini, qui n'était pas dans la sphère des gens qui ont établi les faux dans les titres ou les écritures comptables dans le grand livre ou dans le journal de comptabilisation. Cette éventualité, c'est-à-dire d'une condamnation pour faux dans les titres de Sepp Blatter et d'un acquittement pur et simple de Michel Platini, c'est pas une figure totalement insolite pour le ministère public. J'ai moi-même participé à un procès assez important au tribunal pénal de Balinzone avec du blanchiment d'argent de Russes. Eh bien, à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est un petit comptable de chez nous qui a été condamné pour une petite opération de comptabilité pour faux dans les titres. J'ai compris ça à l'époque comme une sorte d'absolution donnée au ministère public pour une enquête qui ne le concernait absolument pas et qui avait été une cacophonie totale, puisque à la fin, les Russes présumés coupables ont tous été innocentés par le tribunal pénal fédéral, avec une petite condamnation pour faux dans les titres sur une opération comptable pour une fiduciaire. Donc c'est pas quelque chose qui est totalement insolite et hors de la réalité pratique de la gestion procédurale. Donc, ma conclusion est de répondre simplement à la question: Michel Platini peut-il être déclaré innocent le 8 juillet 2022 par le tribunal pénal fédéral de Balinzone? Je réponds très clairement oui. Et donc, je réponds de manière différente à ce que j'écrivais au mois de janvier 2016, à un moment où je ne connaissais pas les rencontres secrètes, à un moment où je ne connaissais pas les dérives du ministère public, à un moment où je ne pouvais même pas imaginer que des séances occultes aient été organisées d'entente entre la prétendue partie civile, la FIFA, et le ministère public, qui est le défenseur de la société civile, hors la présence des mandataires des accusés. Et c'est absolument clair que certains, qui connaissent très très bien le dossier, veulent faire une distinction fondamentale entre les événements intervenus en 2010-2011, le paiement en faveur de Michel Platini, et les événements intervenus en 2015, en disant que c'est deux choses qui sont tout à fait distinctes, que les actes illicites posés par le ministère public, ils peuvent être condamné tout autant qu'il peut y avoir une condamnation pour les actes de 2011 et qu'il ne s'agit pas de faire des amalgames. Je rappellerai à ce sujet qu'il est vrai que le tribunal de Balinzone n'a pas voulu mélanger ces affaires, mais que ce même tribunal a appelé en qualité de témoin un ancien procureur de la Confédération, chargé de la gestion du cas, Monsieur Olivier Thormann. C'est quelque chose d'extrêmement rare en procédure suisse qu'un procureur soit entendu par le tribunal qui va statuer sur le fond de la cause. C'est même quelque chose d'absolument extraordinaire. Et ça dit déjà quelque chose de l'intime conviction qui peut être celle des membres du tribunal quant à la pollution de l'affaire. Et dès l'instant maintenant où il y a un nouveau procureur de la Confédération qui a été désigné en remplacement de M. Laubert, à savoir M. Stéphane Bettler, eh bien, on pourrait se demander si le sauvetage salutaire de la justice suisse ne passerait pas effectivement l'acquittement de Michel Platini et peut-être assez rapidement par des décisions de classement des affaires de trafic d'influence. Parce que là, j'aimerais dire quelque chose qui peut-être ne va pas être compris par tout le monde. Il y a une très très grosse différence entre une décision d'inculpation, de mise en examen, et puis une décision d'entendre quelqu'un en qualité de tiers destiné à fournir des renseignements, de témoin assistant en France, ou une décision d'acquittement. C'est-à-dire que, et peut-être le camp Platini ou le camp Blatter n'admettra pas ce positionnement. Mais dans la technique procédurale, il est tout à fait correct d'admettre que des gens totalement innocents puissent faire l'objet de soupçons et puissent entraîner une mise en examen et une décision d'inculpation. Et l'acquittement, il est là justement pour dire oui, il y a pu y avoir des circonstances pour arriver à ce positionnement-là, mais ensuite, on peut également aboutir à une condamnation. Et il faut également faire une très très grosse différence entre les procédures pénales, les procédures civiles, les procédures administratives et les procédures disciplinaires. Ce qu'il y a de peu ragoûtant dans ce dossier, c'est naturellement le fait que les commissions d'éthique de la FIFA et de recours ont agi dans une célérité absolument incroyable et qu'ils auraient tout à fait pu suspendre les procédures disciplinaires jusqu'à droit connu sur le sort des procédures pénales. Et d'ailleurs, de temps en temps, on le fait, de temps en temps, on le fait pas. Et cette rapidité dans le cas particulier fait qu'on a pratiquement expulsé Platini de l'accès à la présidence de la FIFA. Et c'est vrai que si on voit cette manière de procéder, dans le camp français, c'est quelque chose qui est vraiment pas... cool, hein, pour prendre un terme très simple. Mais les enjeux de pouvoir étaient tels qu'on peut effectivement imaginer que ce que les Français appellent du trafic d'influence est un délit qui n'existe pas sous cette forme en droit suisse et ait pu conduire à des dérives totalement injuste et excessive. Je crois que j'ai fait le tour de ce qu'on pouvait dire avant le jugement qui sera rendu le 8 juillet 2022 par le tribunal pénal fédéral. Et j'espère que vous avez compris un petit peu mieux ce qu'a pu être l'affaire Blatter-Platini et comment Gianni Infantino a pu accéder très facilement à la FIFA en cette période extraordinairement troublée, si défavorable à Michel Platini. Et le dernier élément que je voudrais peut-être signifier ici, c'est que la capacité fautive des gens apparaît également sur les terrains de football. Albert Camus, il disait « Tout ce que j'ai appris de la morale, je l'ai appris sur un terrain de football ». Donc pour lui, les comportements des gens en équipe, lors des entraînements, lors des matchs, et probablement aussi, pensait-il, au vestiaire, disaient beaucoup des hommes. Je tiens à dire à tout un chacun que Michel Platini n'a jamais reçu un carton rouge de sa vie. Et donc, c'était, on va dire, un gentleman sur un terrain de foot. Et c'est certainement l'une des raisons pour lesquelles il a été très aimé par le peuple français. Et c'est peut-être aussi un élément qui ne doit pas être négligé tout à la fin par les juges du tribunal fédéral. Pour moi, ça a quand même une grande importance et peut-être indirectement, c'est un des éléments qui m'ont amené à changer mon positionnement par rapport à l'entente secrète qui aurait été celle entre Michel Platini et Sepp Blatter. Et d'ailleurs, c'est assez, je dirais, comique, mais au sens triste du terme, que cet argument d'entente secrète entre Platini et Blatter soit mentionné par le ministère public qui lui-même a été si déloyal en acceptant l'organisation de rencontre secrète entre le futur adversaire de Michel Platini à l'accès à la FIFA. Je crois que si on veut exprimer disons notre désaccord face à des conventions secrètes orales et passées entre deux personnes, il faut être soi-même totalement disons pur de tout reproche et en tous les cas pas participer à de telles réunions. Et donc, faire accepter sans autre et sans analyser cet aspect du dossier, analyser l'histoire, la construction historique des faits par le ministère public sans avoir à l'esprit ces rencontres secrètes, je pense que c'est un procédé qui peut être en lui-même déloyal. Je ne crois pas que ce soit la voie que va choisir une autorité intègre et impartiale, comme doit l'être le tribunal pénal fédéral.